les jardinières.
C'est déjà la fin pour le mois de janvier, un pas de plus en direction du printemps, de quoi réjouir les jardiniers et jardinières. Et si vous aimez le jardinage, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour Noélie.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Ce matin, on vous offre deux jardiniers pour le prix d'un. Claudine et Stéphane, bonjour.
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 Claudine Miseret, vous êtes cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales. Et Stéphane Caravellas, vous êtes maraîcher passionné, tous les deux de Charmoille, de La Rochette, la microferme biologique. Merci d'être avec nous ce matin.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Alors on l'a bien vu, hein, l'hiver n'a pas dit son dernier mot et force un peu les amateurs de jardin à rester au chaud. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en intérieur avant le retour des températures plus clémentes, Claudine par exemple?
Alors en intérieur, on peut faire comme les plantes, c'est-à-dire se reposer. Mais Stéphane, lui, il est déjà au travail.
Et ouais, ben, c'est que vrai fait-il
Ben ouais. Non mais alors, si c'est pas déjà fait, vous pouvez... éplucher les catalogues de semences, faire votre choix pour les variétés pour l'année 2026. Après, sinon, nous, on va bientôt commencer les semis de solanacées, donc les tomates, les piments, les poivrons, sur couche chaude ou bien à l'intérieur si vous n'avez pas d'autres moyens. Mais voilà, et puis après, sinon, comme Claudine l'a dit, se reposer, prendre le temps aussi tranquillement, ça va très bien aussi.
Merci Stéphane, merci Claudine pour poser vos questions jardinage à nos invités. Vous avez encore jusqu'à 8h. On attend vos coups de fil au 0900 70 20 20. Et puis pour les messages, eh bien, il faut taper le mot jardin, laisser un espace et votre question que vous envoyez au 939 ou vous remplissez le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions, questions aux jardinières avec toujours la possibilité de joindre une photo.
7h, 8h, les jardinières.
On parle souvent de ce qu'on plante, beaucoup moins de ce qu'il y a sous nos pieds. Pourtant, le sol est la base de tout. Ce matin, on s'intéresse à ce lien essentiel entre sol vivant et saveur avec nos invités, Claudine Miseret, spécialiste en plantes aromatiques, et Stéphane Caravellas, maraîcher passionné. On va débuter cette émission avec vous, Stéphane, pour poser les bases, le sol.
Et Stéphane, pourquoi dit-on parfois en maraîchage qu'on ne cultive pas des plantes, mais un sol?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que ces dernières décennies, on a commencé à amasser beaucoup plus d'informations sur la vie du sol qu'il y a un demi-siècle comme ça. Et du coup, de ces observations-là, scientifiques, mais aussi tout simplement les passionnés qui se promenaient en forêt, par exemple, ils ont vu que, par exemple, le sol était souvent couvert. Tout au long de l'année, il y avait toujours de la vie dessous, sous la matière, la couche de matière organique, etc. Et on a essayé de reproduire ça dans nos milieux cultivés, dont le maraîchage, qui est en fait un milieu très très intense, parce que il y a beaucoup de légumes qui sont cultivés à la fois sur une même surface, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait la matière organique, c'est une forme de... c'est l'énergie de base pour la vie du sol. Et comme il nous faut, en fait, en maraîchage, des sols très riches, très dynamiques, pour pouvoir, entre guillemets, cultiver et supporter toutes ces plantes, tous ces légumes, on a commencé à apporter massivement de la matière organique, comme, en fait, faisaient certains maraîchers à l'époque, donc au 19e siècle, par exemple. Et puis c'est petit à petit, en fait, on s'est dit que si notre sol il est pas suffisamment puissant d'une certaine façon, on n'arrivera pas à cultiver les légumes qu'il nous faut, quoi. Donc on s'est mis à cultiver le sol.
Stéphane, vous parlez de sol riche, puissant, un sol vivant, mais concrètement, c'est quoi?
C'est quoi? Alors ça va être compliqué de tout résumer là, mais disons que le sol il est composé principalement en fait de matière minérale et de matière organique, et ces deux mondes-là, ils se rencontrent en fait dans le sol grâce aux micro-organismes, aux macro-organismes comme par exemple le ver de terre, qui lui en fait a un système digestif qui, en ingérant une partie minérale, c'est-à-dire les argiles, et en ingérant une partie organique, donc l'humus, eh ben, il arrive à lier les deux dans son système digestif et à créer en fait ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, qui est l'argile et les humus qui sont liés. Et ce complexe-là permet en fait la rétention des éléments minéraux, de la richesse en fait lui-même du sol. Et donc dans ce sol, il y a tous ces micro-organismes-là. Il y a aussi les racines des plantes, évidemment, qui forment des symbioses avec les micro-organismes. C'est toute une vie qui grouille sur plusieurs dizaines de centimètres. Ça dépend un peu des différents sols, quoi. Mais concrètement, c'est de un monde minéral et un monde organique qui sont un peu en danse perpétuelle comme ça.
Et est-ce que justement ce super sol, ce sol vivant, il rend le jardin d'une certaine manière plus résistant aux maladies ou alors aux aléas climatiques ?
Alors forcément oui, quand le sol est bien vivant, la vie du sol elle-même, en fait, elle rend les sols poreux. Une sorte de structure en couscous aérée comme ça, un peu une sorte d'éponge. Donc, par rapport aux aléas climatiques, par exemple, un sol bien vivant est plus amène de gérer les excédents d'eau quand il y a beaucoup d'eau, par exemple. Et à l'inverse, quand il fait très sec, un sol vivant, poreux, aéré, il est plus amène aussi à retenir l'eau en cas justement de sécheresse, quoi. Après, un sol vivant, il est souvent naturellement couvert en fait de matière organique. Voilà, c'est de la matière organique qui est apportée perpétuellement par les différentes plantes autour, par les cadavres, par les déjections des animaux, etc. Et du coup, il est souvent couvert, et donc le fait qu'il soit couvert, le rend aussi plus résistant, par exemple au sec, au froid, à différentes choses comme ça.
Bah justement, pardon Stéphane.
Oui.
Finissez.
Ok. Et justement, il est beaucoup plus résistant aux maladies aussi parce qu'un sol vivant est bourré de bactéries, de champignons, de micro-organismes qui, comme en fait n'importe quel organisme vivant, si on prend le sol comme un organisme en tant que tel, nous, notre corps, notre corps devient beaucoup plus résistant et en meilleure santé si on a une alimentation diversifiée, on a une alimentation équilibrée, etc. Le sol, c'est la même chose. S'il y a un apport de matière organique diversifiée, équilibrée, etc., plus il sera résistant aux maladies, plus les plantes qui pousseront seront résistantes aussi.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose maintenant durant l'hiver pour préserver ou améliorer ce sol ?
Alors, si c'est pas déjà fait, c'est jamais trop tard de couvrir votre sol. Donc, si vous l'avez pas fait forcément à l'automne ou que vous l'avez fait mais que la matière organique a déjà disparu, parce que ça va quand même assez vite. Hein, souvent, quand il y a la neige aussi, la matière organique dessous disparaît très très vite. Donc, ce serait d'en rajouter, de le recouvrir, de le maintenir bien au chaud là. Et ça peut donc éviter en fait le comment est-ce qu'on peut dire ça, le lessivage par les pluies, par la neige hivernale, et puis ça peut éviter aussi la formation d'une croûte de battance sur un sol à nu. Et puis c'est vrai qu'on pense qu'en hiver le sol se repose, etc., mais c'est pas du tout vrai. Les organismes du sol travaillent en continu, je veux dire, c'est leur vie, c'est leur fonction, donc ils vont pas s'arrêter de vivre. Et donc un sol couvert permet à ces organismes-là de beaucoup mieux, de mieux mieux vivre malgré qu'il fasse froid, malgré qu'il fasse chaud, etc. Donc, couvrez votre sol.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes en compagnie de Claudine Miseret et Stéphane Caravellas. On parle du sol pour débuter cette émission. Alors Stéphane, vous nous avez expliqué toute l'importance d'un sol vivant, riche, puissant, et comment en prendre soin. Un sol couvert, c'est important pour en prendre soin. Préserver et améliorer son sol, c'est essentiel. Mais Stéphane, certaines pratiques peuvent avoir l'effet inverse. Qu'est-ce qu'on risque sans qu'on se rende compte qui fragilise notre sol ? Est-ce que vous avez compris ma question ?
Oui, très bien. comme je l'ai dit en première partie d'émission, le manque d'apport de matière organique peut poser vraiment un gros problème. En fait, il faut bien comprendre que la matière organique qui est apportée naturellement par exemple les feuilles mortes, les branches, les déjections d'animaux, etc., toute la vie organique qui décède, toute cette matière organique-là, c'est en fait de l'énergie pour les micro-organismes qui vivent dans le sol. Et donc, en fait, si, par exemple, on combine en fait, le travail du sol, donc bêchage, labourage ou comme ça, qui en soi ne sont pas forcément mauvais pour la structure du sol, au contraire, mais si on combine en fait, ces pratiques-là sans apport de matière organique suffisante, en fait, ce qui se passe, c'est que avec le travail du sol, on apporte beaucoup d'oxygène, donc ça stimule la vie du sol, la vie microbienne du sol, les bactéries, etc. Et en faisant ça, donc leur énergie, c'est la matière organique. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles digèrent la matière organique beaucoup plus rapidement. Pendant un court instant, entre guillemets, on se dit que ah ouais, notre sol, il est super, les plantes poussent super bien, etc. Parce que donc, toute cette vie-là minéralise la matière organique. Mais si on n'en rapporte pas, en fait, ces organismes-là vont commencer à attaquer, comme je disais un peu plus tôt, le complexe argilo-humique, donc la partie humique de ce complexe-là. Et ça veut dire que ben, ce complexe n'existe plus. Donc, ça déstabilise la structure du sol. Et petit à petit, en fait, les éléments minéraux sont lessivés s'il n'y a pas ce complexe argilo-humique. Et notre sol devient de plus en plus minéral, en fait. Et voilà, on perd de la fertilité s'il n'y a pas cet apport de matière organique constant. Voilà. Et donc, notre sol se minéralise. Et petit à petit, sur l'échelle de plusieurs générations comme ça, on arrive vers des sols minérales, le désert, quoi, en gros.
Merci.
Donc il faut rajouter des matières organiques. Voilà.
On en prend note. Merci en tout cas pour vos conseils, Stéphane. Et après avoir parlé justement de ce sol, pour qu'il reste vivant et de ce qui se joue sous la surface, on va regarder maintenant l'impact très concret de ce travail du sol dans nos assiettes et nos tasses à travers les plantes aromatiques avec vous, Claudine Miseret. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le goût commence dans la terre ?
Alors avant toute chose, je me permets de redéfinir ce que c'est qu'une plante aromatique, parce que moi, ma spécialité, c'est les plantes aromatiques. Donc une plante aromatique, par définition, c'est une plante qui contient des huiles essentielles, mais dans le langage courant, on parle de plante aromatique pour tout ce qui sert à aromatiser, donc à donner du goût dans la cuisine. Et finalement, les légumes, c'est la même chose, il peut y avoir des légumes qui ont plus ou moins de goût. Donc tout ce qui va suivre, en fait, ça concerne autant les plantes aromatiques que les légumes. Et une plante, elle peut être plus ou moins forte en goût. Et finalement, ce goût, c'est le résultat de tout ce que la plante aura absorbé, donc de tout ce qui se trouve dans le sol. Comme nous, quand on boit de l'eau, parfois elle est plus minérale, moins minérale, on va manger un plat de curry, on va manger un plat de couscous. Tout ce qu'on consomme va arriver dans notre corps, et c'est la même chose pour la plante. Et elle va produire du goût, notamment à cause du stress qu'elle va subir. Donc, si une plante est stressée parce qu'elle manque d'eau, ou parce qu'elle a trop d'eau, ou bien parce qu'il fait froid, ou au contraire il fait très chaud, elle peut avoir été attaquée par des rongeurs par exemple. Vous êtes allé dans votre jardin, vous avez senti votre sauge, vous l'avez frottée, etc. Tout ça, c'est considéré par la plante comme des potentielles attaques. Et en fait, elle va produire des huiles essentielles, elle va produire différentes molécules, différentes saveurs en réaction à tout ça et grâce à tout ce qu'elle aura absorbé. Donc en fait, ces plantes, que ce soit de nouveau des légumes ou des plantes aromatiques, elles vont développer des goûts différents en fonction du terroir, donc en fonction de ce qu'elles ont absorbé. C'est pour ça qu'on a pour certaines plantes aromatiques des cultivars, comme on appelle, donc c'est une même variété, mais puisqu'elle a absorbé des éléments complètement différents, elle aurait été dans un contexte complètement différent, selon les lieux, elle développe des molécules et des arômes complètement différents. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un terroir qui est important pour le développement du goût et que les gens qui sont dans ce terroir, donc les jardiniers, en font partie.
Les jardinières.
Le samedi matin, on parle jardin dans votre radio. Nous sommes en compagnie de Claudine Miseret, cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales, et de Stéphane Caravellas, maraîcher passionné, tous les deux de Charmoille, de la microferme biologique de La Rochette. On parle de sol vivant en bonne santé et de plantes qui ont du goût. Et puis bien sûr, Stéphane et Claudine, vous prendrez le temps de répondre aux questions de nos auditeurs.
On attend vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 et la chance de pouvoir parler directement à Claude et Stéphane. Claudine, pardon. Claudine et Stéphane, vous pourrez aussi nous écrire à SMS, vous tapez jardin, vous laissez un espace et votre question, puis vous nous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières, avec toujours une possibilité de joindre une photo.
Avant la pause musicale, Claudine, vous nous avez parlé un petit peu des légumes et plantes aromatiques qu'on a mis dans le même panier ce matin. On a parlé du terroir qui était important. Du coup, Claudine, pourquoi certaines herbes qu'on achète ou légumes du commerce sentent peu, alors que celles qui viennent du jardin sont plutôt très parfumées ?
Alors ça dépend complètement, enfin presque complètement des méthodes de culture, dans le sens où les légumes qu'on trouve dans les grandes surfaces sont produits d'une façon à produire beaucoup dans un temps limité. Donc c'est vraiment une question de rentabilité. Donc les plantes vont être vraiment poussées, dans le sens où on va leur donner de l'engrais soluble, beaucoup d'eau en général, hein, parce que c'est ça qui donne de la masse aussi. Donc ça va diluer tout ce qui donne le goût, et en plus les conditions de température et d'humidité vont être complètement contrôlé pour éviter les maladies, mais aussi justement pour pousser cette culture, pour la rendre plus rapide. Et les plantes ne vont avoir quasiment aucun stress. Elles sont souvent dans des serres fermées, donc il n'y aura même pas un coup de vent, quoi. Elles seront sous tunnel, etc. Donc elles vont... Alors, c'est pas systématique, hein, mais voilà, c'est souvent. En fait, on va vraiment essayer de limiter le plus possible tout ce qui pourrait stresser la plante. Donc, comme on l'a dit avant, finalement, ce qui provoque la formation de goût dans la plante, c'est non seulement ce qu'elle absorbe, mais aussi les stress qu'elle subit. Donc, dans le commerce, on va vraiment avoir des légumes qui n'ont pas de stress et qui sont dilués avec toute cette eau qu'ils auront absorbée, donc qui vont avoir naturellement moins de goût. Et si vous faites la comparaison entre un fenouil de votre jardin que vous laissez complètement livré à lui-même, vous aurez pu prendre la même variété que le fenouil du magasin, mais vous ne l'aurez pas arrosé, il aura peut-être eu trop chaud, il aura peut-être eu trop froid, etc., etc. Ce fenouil sera beaucoup plus petit, il sera beaucoup plus fibreux, mais il aura énormément plus de goût. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que tous nos légumes et toutes nos plantes aromatiques viennent à la base de plantes sauvages. Dans le cas des plantes aromatiques, c'est encore assez proche. Il y a beaucoup de plantes aromatiques qui ressemblent vraiment aux variétés qu'on trouve encore en sauvage. Alors que pour les légumes, il y a quasiment aucun légume qui n'a pas été vraiment sélectionné pour produire les variétés qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a vraiment des légumes créés par l'humain qui n'ont plus rien à voir avec les plantes sauvages, contrairement aux plantes aromatiques qui peuvent des fois avoir un peu plus de goût parce qu'elles se rapprochent des plantes sauvages. Voilà.
Et justement, Claudine, si un sol est par exemple trop riche, hein, est-ce qu'il pourrait nuire aux plantes aromatiques ?
Alors, ce qu'on appelle un sol souvent trop riche, ça veut dire un sol qui contient beaucoup de matière organique. Et ça dépend vraiment des plantes qu'on cultive, autant pour les légumes que pour les plantes aromatiques. En fait, il y a certaines variétés, certains types de plantes qui vont aimer les sols riches, parce que c'est comme ça dans leur milieu naturel. Et si vous prenez par exemple une verveine, ben en fait, une verveine, ça ne vient pas de chez nous, hein. Donc une verveine, elle va naturellement aimer les sols riches. Si vous la mettez dans un sol pauvre, elle va peut-être pas mourir, mais elle va pas forcément bien se développer, elle va pas donner beaucoup de feuilles, etc. Donc une verveine que vous mettez dans un sol riche et que vous arrosez quand même régulièrement, parce que ça doit être arrosé régulièrement, eh ben elle va quand même produire beaucoup de goût, alors que par exemple une lavande, dans son milieu naturel, elle est sur des coteaux plutôt arides, dans un sol bien drainée. Donc si vous la mettez dans un pot avec beaucoup de compost, beaucoup d'eau, elle va devenir grande, mais en fait elle va pas forcément être en bonne santé et elle va pas développer beaucoup de goût. Donc ça dépend vraiment de la plante, et le mieux c'est vraiment de s'inspirer de ce qui se fait dans la nature, donc d'aller voir sur internet ou dans les livres, ou demander à un spécialiste pour chercher à comprendre quel est le milieu de vie sauvage de la plante à la base.
Et si on connaît bien ces milieux sauvages, ça nous évitera des erreurs ?
Exactement, parce que si on observe la nature, c'est beaucoup une question d'observation, hein, finalement. Ben, on va essayer en fait, de reproduire les conditions de vie de ces plantes dans leur milieu sauvage, mais on va le faire dans notre jardin. Donc si on regarde, par exemple, ben, la menthe, naturellement, elle pousse où ? Elle pousse dans des endroits plutôt humides, et elle est généralement dans des endroits ensoleillés. Donc on va essayer de faire un milieu de culture pour la menthe qui correspondra à ça, donc plutôt humide, mais au soleil. Et ça, ça va donner des menthes qui auront énormément de goût. Et finalement, le système de la spirale d'aromatique, dont on entend souvent parler, ben c'est exactement ça. C'est vraiment de mettre en haut de la spirale, là où ce sera en plein soleil et drainé, des plantes qui aimeront les endroits très ensoleillés et plutôt secs, alors que les plantes qui aiment plutôt l'humidité et l'ombre ben vont être placées du côté de la spirale au nord, en général, là où il y aura moins de soleil, et plus en bas, là où il y aura plus d'humidité. Donc on va vraiment essayer de copier la nature pour éviter ce genre d'erreur.
Claudine, vous en avez déjà donné quelques-uns de ces conseils pour avoir des plantes aromatiques plus savoureuses, comme tout simplement apprendre à les connaître, ces plantes. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour qu'elles soient encore plus goûteuses, ces plantes aromatiques, sans produits chimiques ?
Alors finalement, c'est intéressant parce qu'on parle de produits chimiques, mais finalement, ce qui donne le goût, c'est aussi la chimie de la plante. Donc c'est vraiment, la plante est pleine de produits chimiques naturels. Et en fait, c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'une plante, elle est naturellement goûteuse, que ce soit un fenouil ou une lavande. Elles sont faites pour ça, parce que c'est ce qui leur donne leur résistance aussi. On ne comprend pas tout à fait pourquoi elles produisent certaines molécules qui donnent du goût, mais on suppose que c'est peut-être une question de protection, une question de réserve d'énergie, etc. Donc ces plantes, elles sont faites pour avoir du goût. Donc la meilleure façon, c'est de vraiment leur donner les meilleures conditions, de pas les surprotéger d'une certaine façon, et bien sûr d'avoir un sol vivant, comme on l'a dit. Mais il y a aussi un point tout à fait basique, c'est de finalement choisir vos variétés. Parce qu'il y aura certaines variétés qui sont un petit peu plus fades, parce qu'elles sont comme ça, et il y a certaines variétés qui auront beaucoup de goût, qui seront peut-être plus amères, plus acides, etc. Et ça, c'est vraiment à vous de les choisir au préalable.
Et pour conclure sur ce thème sol et plantes, Claudine, Stéphane, est-ce qu'on peut dire que prendre soin du sol, c'est déjà prendre soin de ce qu'on va manger ?
Oui, c'est clair, et puis on peut faire le parallèle avec, vu que dans la nature, comme on dit, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si une plante, un aliment est en très bonne santé, elle va aussi communiquer sa santé, sa bonne santé à l'organisme qui l'ingère, donc nous, être humain.
Les jardinières.
Il est temps de répondre à vos questions que vous nous avez envoyées, soit par SMS en tapant jardin, un espace suivi de votre question, votre nom et tout ça au 939 ou alors via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. Noélie, on a des petites questions.
Oui, une première qui nous est parvenue par SMS cette semaine. Est-il possible et facile de cultiver des pois chiches chez nous à 700 mètres d'altitude ? Stéphane, vous pouvez répondre à cette question ?
On va essayer. C'est vrai que c'est une très bonne question. Après, personnellement, je n'ai jamais essayé de cultiver des pois chiches. Mais je pense que c'est tout à fait possible de le faire, même à 700 mètres d'altitude. Le seul peut-être point que je vois, c'est que bah, la saison est plus courte quand même à 700 mètres d'altitude. Mais voilà, j'imagine que des pois chiches, c'est faisable. Alors c'est vrai que maintenant, je m'en souviens, j'en avais cultivé chez mes parents, mais on était à 500, presque 600 mètres, et puis c'est allé. Après, je n'ai pas eu une récolte faramineuse, mais voilà, donc je pense que c'est tout à fait possible, et dans tous les cas, il faut toujours essayer, et puis vous verrez bien, quoi.
Juste de quoi faire un petit houmous.
Voilà, ouais.
On va parler endives. Pour cultiver des endives belges, quand faut-il commencer ? Comment s'y prendre exactement ? Muriel nous dit qu'elle a récupéré du sable et des bacs en Sagex et qu'elle a aussi une bonne cave voûtée pour l'hivernage. Mais avant, elle ne sait pas trop.
Ok, alors c'est intéressant. Donc, personnellement, je n'ai jamais cultivé d'endives. Par contre, j'ai travaillé dans une entreprise qui en cultivait, qui en faisait, qui en vendait. Donc l'endive, en fait, c'est une chicorée, donc il faut la semer en début de saison, je dirais autour du mois de mai, semer en plein champ. Elle va se développer, elle va développer en fait sa racine pivot en faisant une rosette de feuilles au sol. Et à l'automne, va falloir les arracher, couper la racine, parce que souvent elles sont très très volumineuses et longues, donc couper la racine en bas pour la raccourcir, enlever les feuilles, la rosette de feuilles, les enlever un peu, et ensuite effectivement ben, le sable et le bac en Sagex, c'est très bien. Donc l'idée, c'est en fait maintenant de les forcer. Donc on va les mettre dans du sable humide, il faut qu'il y ait constamment de l'humidité dans ce sable, donc quitte à venir tous les jours un peu rajouter de l'eau ou arroser comme ça. Et je crois que les paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est la température maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait que la cave d'hivernage soit à une certaine température plus élevée que l'eau. Donc en gros, il faut que l'eau soit fraîche, soit froide, et que la cave, la température de l'air soit chaude. Donc j'imagine que 15 degrés, ça devrait aller. 15, 20 degrés. Bon, 20, c'est peut-être beaucoup pour une cave, mais voilà. Et puis en fait... Et dans le noir aussi, surtout. Comme ça, les bourgeons qui vont repartir de la racine vont rester blanches et ne vont pas se gorger en substances amères, en fait. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait des endives. C'est en fait les forcer durant une période qui n'est pas propice pour le développement de cette plante, quoi. Mais en gros, il y a la culture de la racine d'abord et ensuite le forçage de cette racine-là pour créer des bourgeons. Dans le noir, des feuilles blanches qu'on va consommer après, quoi.
7h, 8h, les jardinières.
Le temps file, il est presque l'heure de se dire au revoir. Et ce matin, on a parlé de sol pour le respecter, pour avoir plus de goût dans nos assiettes. Et on va parler justement de goût, mais celui des oiseaux, Claudine, parce qu'il y a pas mal d'oiseaux en ce moment à l'extérieur. Est-ce qu'on peut les nourrir? Et si oui, avec quel genre de nourriture?
Alors, il y a beaucoup d'oiseaux. Effectivement, c'est une bonne idée de nourrir les oiseaux, mais pas avec n'importe quelle nourriture et pas n'importe quand. Normalement, le seul moment où il faudrait nourrir les oiseaux, où on pourrait nourrir les oiseaux, c'est quand le sol est vraiment gelé pendant plusieurs jours d'affilée, ou quand il y a vraiment une couverture neigeuse, et c'est là que les oiseaux vont avoir du mal à trouver à manger. Donc sinon, il faut les laisser se débrouiller, en fait, hein, ils n'ont pas besoin de nous. Mais c'est vrai que voilà, s'il y a vraiment des conditions climatiques qui rendent leur nourrissage difficile, bah effectivement, on peut leur donner un coup de pouce. Et ça dépend complètement des oiseaux. Et souvent, malheureusement, les graines du commerce ne sont pas du tout adaptées. Parfois, elles sont beaucoup trop grasses. Et ça a été étudié, hein, les moineaux qui mangent beaucoup, beaucoup de nourriture très grasse se reproduisent moins, en fait, au printemps et à l'été. Donc on se dit qu'on veut leur faire du bien, mais des fois, on ne le fait pas bien. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller vraiment visiter le site de la station ornithologique suisse, qu'on appelle Vogelwart. Et là, ils donnent vraiment des informations très détaillées sur le nourrissage des oiseaux, comment faire, où placer les mangeoires aussi pour éviter que les oiseaux se fassent manger par les chats, hein, parce que c'est un problème. Sinon, ça fait un garde-manger pour chats. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ils donnent vraiment tout ce genre d'informations. Allez visiter leur site, donc vogelwart.ch ou bien Station Ornithologique Suisse.
Merci Claudine et Stéphane. Claudine Miseré, vous êtes cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales. Et vous, Stéphane Caravellas, vous êtes maraîcher passionné, tous les deux de Charmois et de la Rochette Microferme Biologique. Merci d'avoir été nos invités ce matin. Bon week-end et à très bientôt.
Merci à vous,
beaucoup, bon week-end.
Merci, et puis la semaine prochaine, nous serons en compagnie de Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont. Et vous avez toute la semaine pour poser vos questions. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.